Good morning, delegates.
Bonjour à tous.
Yeah. Good morning, delegates. We will begin.
Nous allons commencer la séance pour mettre un point final à la discussion que nous avons essayé de terminer la soirée d'hier. Et nous avons mieux compris la question avec notre conseiller juridique. Et je veux m'assurer que nous sommes toujours d'accord aujourd'hui. Donc un moment, je vais m'entretenir avec elle et elle va nous expliquer.
Thank you, delegates.
Merci à tous les délégués. Tout d'abord, il faut bien que tout le monde comprenne que notre conseillère juridique, Madame Gadzira, est une excellente conseillère. Son objectif est de s'assurer que l'on agit conformément à la procédure. Et son but est également de faciliter notre travail. Elle n'a aucunement l'intention de faire barrage par rapport à nos travaux ou d'empêcher d'être flexible. Donc, nous sommes arrivés à une décision qu'elle soutient tout à fait, puisqu'elle s'inscrit dans les limites. Alors, en raison de petits détails juridiques, le groupe que l'on établit, c'est le groupe dont on n'osera pas prononcer le nom. Donc, on n'aura pas de groupe de travail ni de sous-comité. On va simplement travailler. Et la formulation, le libellé qu'on va vous soumettre, comporte des changements mineurs. Et ce sera le libellé qui sera inclus dans notre rapport et il décrit exactement ce que l'on a dit qu'on souhaitait faire hier. Donc avec un groupe de ce comité exécutif qui serait ouvert à tous les membres du comité exécutif et qui travaillerait sous la houlette d'un membre pour l'Amérique latine pour réviser le plan qu'on a présenté lors de cette réunion et le soumettre à la réunion prochaine. Alors la déclaration avec quelques révisions serait... Sur la base du projet de plan stratégique qui a été abordé lors du CCEXEC de juin 2011 et sur la base des commentaires exprimés au cours de cette discussion, le comité exécutif élaborera un projet révisé de plan stratégique. Le membre pour l'Amérique du Nord collectera et compilera les commentaires des membres du comité exécutif. Le projet révisé de plan stratégique sera présenté à la prochaine réunion du CCEXEC pour un examen supplémentaire. Alors, nous avons l'intention évidemment de tenir la réunion du CCEXEC avant la commission, puisqu'il faut faire avancer ce travail pour rester conforme à nos objectifs, de façon à ce que ces travaux soient examinés par tous les membres du comité et que tout le monde soit prêt dans les temps. Je rends la présidence au vice-président Östergaard pour poursuivre la discussion, mais je crois de toute façon que nous avons dégagé une bonne solution. Merci, Madame la Présidente. Je crois que la situation a déjà été clarifiée, autant faire se pouvait, donc il ne nous reste simplement à voir s'il y a des commentaires que les délégués souhaiteraient faire. Si tel n'est pas le cas, je pense que nous allons adopter cette décision du comité comme étant la nôtre, et je m'excuse de la confusion qui est née hier, des incertitudes concernant les spécificités juridiques que nous ne connaissions pas lorsque nous avons émis cette proposition et qui se sont fait jour au fil de la conversation. J'espère que cela ne vous a pas trop perturbé. Et sur ce, je ne vois pas de demande d'intervention, donc je crois qu'on peut conclure cette question qui sera donc intégrée au rapport et nous espérons que le groupe qui n'a pas de nom fera un travail efficace. Ce qui veut dire que nous avons achevé le point 4 de l'ordre du jour, et cela signifie que je vais quitter la présidence puisque nous passons au point 5 qui sera animé par mon collègue, M. Melindou. J'espère que vous avez pu suivre correctement avec moi. Merci. Le vice-président Melindou donc présidera cette discussion qui sera introduite par Tom Island, et il s'agit des relations entre la Commission et d'autres organisations internationales, celles qui souhaitent le statut d'observateur. Cette session des discussions n'est pas enregistrée, donc l'enregistrement va être éteint.
We now move on to agenda item number 6. And we have two items, 6A, the FAO-WHO project and trust fund for enhanced participation in Codex, and also under 6B, matters arising from FAO and WHO, consideration of requests for scientific advice. And I'll be calling upon WHO to lead the presentation under agenda item 6A. We have documentation related to agenda item 6A. We have the annual report 2010 of the Codex Trust Fund, and on part B we have the progress report January to June 2011.
Donc nous avons le rapport annuel 2010 du Fonds fiduciaire du Codex. Partie A et la partie B concernent le rapport examen à mi-parcours janvier à juin 2011. Ce rapport a un but informatif auprès de ce comité. Nous avons un autre document au titre de ce point concernant le fonds fiduciaire, la réponse de la FAO, OMS, à l'examen à mi-parcours du fonds fiduciaire du Codex. Là encore, il s'agit d'un document à titre informatif qui ne fera pas l'objet de discussion. Le troisième document que nous avons est la proposition du fonds fiduciaire du Codex en réponse aux recommandations formulées dans le cadre de son examen à mi-parcours. Et nous allons consacrer quelques instants à ce troisième document pour obtenir des contributions de ce comité. J'espère que nous sommes prêts, l'OMS, qui animera la discussion. Je vous donne la parole. Bonjour à tous, chers délégués du comité exécutif. Alors, si vous me le permettez, Monsieur le Président, je vous propose qu'à ce stade, on concentre notre attention et notre temps sur les propositions que nous vous soumettons pour connaître vos réactions en réponse à l'examen de mi-parcours. Et Monsieur le Président, je suis prête à faire une courte présentation qui décrira brièvement ces propositions. Si vous le souhaitez, nous pouvons commencer avec les questions de clarification qui peuvent toucher à n'importe quel document qui a été cité. Et je suis prête, Monsieur le Président, à vous présenter certaines questions essentielles, cruciales, sur lesquelles nous invitons le comité à réagir. Donc, si cela convient au président et aux membres du comité, nous pourrions procéder ainsi. Donc, ma courte présentation a trait au CCXXC 1134-14 additif 2, qui est le troisième des documents qui apparaissent au titre de cet ordre du jour concernant le fonds fiduciaire. Donc, sans entrer dans les détails, je voudrais simplement passer ce document en revue pour qu'on soit sur la même longueur d'onde lorsque viendra le moment de discuter de ces propositions. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais relever, comme vous savez tous, que c'est un processus entier qui a été suivi pour l'examen mi-parcours. On s'est penché dessus l'an dernier au sein du comité exécutif, ensuite on en a parlé au sein de la commission, et il y a une série de questions stratégiques qui ont été discutées et des documents ont été envoyés aux comités régionaux, aux comités de coordination. Donc le processus a été de prendre en compte ce qui avait été dit au niveau des comités. Donc il s'agissait vraiment d'entendre, d'écouter et d'en tirer la substantifique moelle. Bien comprendre quelle était l'idée exprimée par les divers comités qui étaient intervenus. Nous avons ensuite essayé d'intégrer ces commentaires dans nos réflexions pour déterminer quelle était la situation à laquelle on devait faire face, surtout compte tenu de la participation physique au Codex. Beaucoup des idées que l'on entendait concernaient le besoin potentiel de réinviter les pays qui ont le plus besoin d'aide. Alors, on s'est vraiment demandé quel était le profil des pays qui semblent avoir des difficultés. Tout d'abord, à respecter l'exigence de 50% de financement, donc c'est un point qui devrait nous préoccuper, ainsi que les pays éligibles qui ne semblent pas avoir maintenu une participation suffisante au Codex. Si vous avez eu une aide pour 5 ou 6 ans auparavant, peut-être que vous ne pourrez pas maintenir ce niveau de participation une fois que vous n'avez plus droit aux aides. Mais je crois qu'il y a quand même une différence entre des pays qui participent et qui tout d'un coup arrêtent la participation. Donc, avec toute l'équipe de la FAO et de l'OMS, on essaie de déterminer le dénominateur commun, le profil commun de toutes ces entités. Donc, à la lumière de ce qui avait été dit, nous avons établi le profil des pays. Et troisième point, quels sont les principes du fonds fiduciaire du Codex dont on veut s'assurer qu'ils sont respectés? Et les trois principes fondamentaux sont suivants. Le fonds fiduciaire est censé agir en tant que catalyseur pour une meilleure participation au Codex. Deuxièmement, l'une de nos forces a toujours été l'objectivité, la transparence des critères utilisés. Il faudrait essayer de se tenir à ces critères. Troisième principe, c'est l'indépendance financière progressive des pays. Donc amener ces pays à un état dans lequel ils peuvent soutenir, maintenir leur participation en utilisant leurs propres ressources. Donc juste pour vous donner une image de la situation, nous avons remarqué que ces pays qui avaient du mal à financer leur participation et qui disparaissaient une fois qu'elles n'avaient plus droit à ces aides semblaient partager les caractéristiques suivantes. Une population restreinte, une économie modeste, un revenu par habitant, un revenu national brut modeste et beaucoup d'exportations. Et je pense que cela met en lumière l'importance du codex pour ces pays, justement. Et ou une forte dépendance sur les importations alimentaires. C'est l'un ou l'autre. Ça peut être une combinaison des deux ou l'un des deux, en fonction des cas. Nous avons également remarqué que parmi ces critères, il fallait citer l'éloignement des marchés. Et ces pays ont un développement humain faible ou moyen. Donc voilà l'idée générale de la situation qu'on avait dégagée.
So in looking at what options we might...
Alors, quelles sont les solutions pour réaliser l'objectif 1 et comment repositionner les choses au sein du fonds fiduciaire? Eh bien, pour savoir quelles sont les options, eh bien, on en a retenu deux. Et en fait, on cherchait une certaine simplicité parce qu'il ne faut pas oublier le secrétariat du fonds fiduciaire, c'est deux personnes. Et les donateurs ont toujours dit n'augmentez pas les frais administratifs. Donc, que faire pour maintenir les mêmes effectifs et les mêmes services administratifs? Et les deux options que je propose sont tout d'abord aucun changement quant aux critères utilisés. Ensuite, assurer le suivi avec ceux qui ne respectaient pas les 50% pour essayer de voir quelles étaient les raisons. Et ensuite, les autres organes eh bien, seraient appelés pour faire des activités dans les pays dans le cadre des programmes de coopération technique ou autres. Et puis l'option 2, eh bien, on a essayé de voir, d'identifier qui sont ces pays, quel est leur profil. Leur grande majorité, c'était des PMA ou alors des petits pays insulaires en développement. Donc parfois il y a un chevauchement entre les deux, parfois pas, mais manifestement il y avait une large majorité de ces pays qui tiraient la sonnette d'alarme. Et donc dans le cadre de l'option 2, nous proposons que l'on donne à ces pays 2 ans de plus pour ce qui est de ces fonds à 50%. Mais avec un petit plus, le pays identifie ses deux principales réunions du codex. Bon, ils font toujours au moment de la demande, parce que dans le questionnaire, dans la demande, on met tout d'abord les principales. Maintenant, on demande simplement quels sont les deux comités les plus importants pour vous. Et donc, nous proposons que l'on soutienne des participants pour qu'ils participent à ces deux réunions de comité. Et ensuite, le pays, lui, soutient aussi 2 participants de plus pour les mêmes réunions des comités, ou alors 2 participants qui seraient financés par le pays pour 2 autres pays, ou pour 2 autres comités qui seraient une priorité pour le pays. Donc, ça permettrait de le garder plus longtemps sur cette somme de 50%. Alors là, j'ai une nouvelle ligne à regarder. Pour les PMA et pour les petits pays insulaires en développement. Oui, l'année 6 et 7, on a 50% 2 ans, et ensuite 2 ans de plus, 8 et 9 pour ces pays-là. Mais on les garde quand même pour ce qui est de ces financements partagés, mais on limite cela simplement aux comités qui font partie des 2 priorités, plutôt que de leur proposer la totalité de la gamme. Ensuite, il faut également s'assurer que les pays prennent les mesures pour obtenir des financements sur leur budget national. Et donc, il nous a semblé qu'on pouvait ajouter quelque chose dans le formulaire de demande. Donc, pour tous les pays qui sont à 50%, parce que c'est dit, c'était une surprise pour les gens. Il y a des gens qui viennent me voir. Écoutez, je ne savais pas que je changeais de catégorie cette année. Et donc, on met en place un mécanisme qui, nous l'espérons, les encourageant à adopter ces mesures. Et donc, nous allons également suivre cela de près. Diapositive suivante. L'autre option que nous proposons, elle concerne les pays qui ont déjà changé de catégorie, qui sont sortis du fonds fiduciaire du Codex et qui ne relèvent pas de cette option PMA et petits pays insulaires en développement. Parce qu'il y a d'autres pays qui ne financent pas leur participation au Codex, mais qui ne relèvent pas de ces deux catégories de pays. Nous avons eu une réunion de planification stratégique au mois de mars. C'était le groupe consultatif du Fonds, donc c'était les secrétariats FAO-OMS. Nous avons essayé de voir quels étaient les paramètres pour les pays qui avaient changé de catégorie. Donc nous avions identifié un processus en six étapes. Tout d'abord, identifier les pays qui avaient des besoins. C'est facile à faire. Et quand on regarde le rapport annuel et le rapport intermédiaire, eh bien nous publions des tableaux concernant le financement ou non des pays, de leur participation au Codex, et je vous dirai quelle est la page tout à l'heure. Donc, ça c'est facile à voir. Qui sont les pays qui ne financent pas? Ensuite, deuxièmement, le dialogue, pour voir pour quelles raisons il n'y a pas de financement, parce que c'est peut-être un choix de la part du pays. Donc il faut savoir ce qui se passe. Si un pays nous dit on ne peut pas continuer à participer, on n'a pas l'argent, il y a une sécheresse, il y a eu un changement de régime, bon, il y a beaucoup de motifs et j'en ai entendu beaucoup, donc il faut en tenir compte. Et dans ces cas-là, on invite le pays à présenter une demande en tant que pays qu'on appelle en anglais graduate, donc affranchi. Il y aura d'ailleurs un certain nombre de critères à respecter. Bon, ce sont simplement des idées. Après, on verra pour les détails, mais enfin, parmi les critères, tout d'abord des faits concernant le fonctionnement d'un certain nombre d'éléments, et on a ça à la page 3, ensuite la participation continue aux réunions. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'il y a un effet d'une participation si quelqu'un participe de manière continue. Ça, on l'a constaté. Ensuite, il faut qu'il y ait également des preuves que l'on a tiré quelque chose de la participation à ces réunions. Cette personne, bien sûr, est assise à un fauteuil, mais représente une pays. Donc même si on participe au financement de la participation d'une pays à une réunion du Codex, il faut essayer de voir quel est l'avantage de cette participation pour le pays. Ensuite, il faut que l'on nous prouve également que les mesures ont été prises pour obtenir un financement national. C'est-à-dire, là maintenant, les demandes sont examinées par le secrétariat du fonds fiduciaire, donc on mesure en fonction de certains critères. Il y a une coopération intersectorielle, tout le monde a accepté cela, etc. Dans ce cas-ci, là, nous examinons quelque chose qui est plus technique. Et c'est là où nos organisations qui nous parrainent nous ont dit que, eh bien, les organisations vont examiner les demandes avec des gens de ces deux organisations, du siège ou des régions. Donc vont participer, vont évaluer la demande en fonction de ce qu'ils savent, de ce qui se fait dans les pays. Ensuite, il me semblait qu'il fallait également un processus de compte-rendu séparé. Parce qu'en effet, pour ce qui est de ces pays, ce que nous recherchons, c'est un petit peu différent par rapport à ce que nous avons pour ce qui est du compte-rendu pour les participants qui sont dans le fonds fiduciaire actuel. Donc en fait, ça concernera davantage le renforcement du Codex dans les pays, le renforcement de la participation aux réunions du Codex. Et donc pour cela, il nous semblait qu'il serait peut-être bon que les pays présentent également, c'est une proposition, présentent un plan d'action national qui serait présenté en même temps que la demande et qui serait examiné chaque année. Maintenant, en ce qui concerne ce qui est demandé par les pays, eh bien, nous avons estimé qu'il serait peut-être utile, que les pays nous disent combien d'années supplémentaires de soutien il leur faudrait. Donc, combien de participants par année. Et combien de participants seraient soutenus par le gouvernement. Donc, il s'agit maintenant de mettre les pays dans une situation où c'est à eux de nous dire ce dont ils ont besoin de la part du fonds fiduciaire. Donc, faisant un diagramme, combien il vous faut d'années, combien il faut financer les participants, etc. Donc voilà, Voilà simplement ce qui a été fait pour ce qui est des options pour les pays qui se sont déjà affranchis. Et puis pour vous donner quelques idées. Pour l'instant, je ne sais pas combien il y a de pays affranchis. Au-delà des PMA et au-delà des petits pays insulaires en développement. Bon, ça fait partie du dialogue qu'on aura, donc on verra qu'ils souhaitent y retourner. Mais enfin, pour ce qui est de l'option PMA, pays insulaires, eh bien, il y en a 21. Donc, 21 affranchis actuels sur 56 affranchis. Donc, ça fait un nombre quand même relativement élevé. Et parmi les pays qui sont actuellement à 50% de financement partagé, eh bien, il y a 10 pays, sur un total de 43, qui seraient donc conservés pour les deux années supplémentaires. Donc, simplement pour vous donner un chiffre. Roberto. Objectif suivant. Voilà, objectif 2. Ça va être plus rapide parce que les objectifs 2 et 3 sont assez courts. L'objectif 2 concerne la participation effective. Donc, objectif 1, élargir la participation, c'est-à-dire que il s'agit de la participation physique, donc des gens qui sont aux réunions, participent aux réunions, des réunions du Codex. Maintenant, le groupe, le CGTF, souhaite proposer trois domaines sur lesquels on pourrait se pencher. Tout d'abord, on pourrait concentrer des formations sur un codex particulier du codex qui semble être un comité prioritaire pour la plupart des pays PMA ou pays en transition. Et donc il s'agirait de renforcer la participation effective dans un ou plusieurs comités du codex. Et l'idée est la suivante, il s'agirait d'appeler les pays pour lesquels ce comité est une priorité. Donc, on les amènerait pour une formation, mais enfin, il faudrait que la personne formée soit aussi la personne qui participe à la réunion du comité du codex, parce que sinon, si vous voulez, l'investissement serait perdu. Mais c'est une façon de travailler avec les pays qui rentrent dans leur... Donc, il s'agit de former les personnes qui rentrent ensuite dans le pays, etc. Donc, ils participeraient à cette formation. Et ensuite, ils rentreraient dans leur pays jusqu'à la prochaine réunion du Codex. La deuxième idée, c'est d'utiliser le mentorat et le jumelage. Il y a des pays qui avancent rapidement, il y a des pays affranchis, donc il s'agit de voir comment on peut les utiliser dans le mentorat, comment établir des jumelages entre différents pays également. C'est aussi une solution à explorer. Et pour terminer, il s'agit également de poursuivre les formations régionales et sous-régionales organisées par l'FAO et par l'OMS et soutenues par le Fonds fiduciaire pour répondre à des besoins particuliers des pays. Quant à l'objectif 3, là il y a deux axes sur lesquels on est déjà en train de travailler. Tout d'abord les séminaires pour le comité codex contaminants dans les aliments et pour les résidus des médicaments vétérinaires. Pour que les gens sachent comment on traite les faits scientifiques au codex et comment ils peuvent y contribuer. C'est assez simple. Et apparemment, ça se passe bien. Et en fait, ça ne nous coûte quasiment rien. Donc, c'est déjà là. Donc, on fait simplement un séminaire. Donc, ça, on aimerait le poursuivre. Ensuite, deuxièmement, la plupart d'entre vous savent que cet exercice, pendant cet exercice, nous avons reçu de l'argent de la Commission européenne. Pour quatre pays du Codex de la région Afrique et Proche-Orient. Donc, Soudan et trois pays, Éthiopie, Burkina Faso et Mali de la région Afrique. Donc, pour des enquêtes de données concernant le sorghum. Donc, il s'agit en fait justement d'obtenir les données qui manquaient, ensuite les faire passer par les comités d'experts, et ensuite en discuter au comité sur les contaminants dans les produits alimentaires, et ensuite essayer de voir si ces données justifient éventuellement une norme pour les microtoxines dans le sorghum. Alors pour ce qui est des projets pilotes, eh bien on pourrait faire venir des experts qualifiés des pays en développement, et qui feraient l'objet d'un mentorat, donc qui travailleraient avec quelqu'un, Et d'ailleurs, vous avez les détails à cet égard dans les documents que vous avez sous les yeux. Donc, voilà, j'en ai terminé avec ma petite présentation. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous voulez vous arrêter là. Et ensuite, une fois que ce serait prêt, eh bien, je passerai aux principales questions. Merci.
Thank you very much, WHO.
Merci beaucoup à l'OMS de cette présentation. Est-ce qu'il y a des commentaires, quelques rapides commentaires concernant la présentation que nous venons d'entendre? Si ce n'est pas le cas, eh bien, nous allons demander à l'OMS de passer directement aux questions. Et à cet égard, il souhaite solliciter le comité pour certaines idées. L'OMS. Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est des principales questions pour l'objectif 1, alors nos options sont les suivantes. Option 1, statu quo, pas de changement. Option 2, ça permettrait aux PMA et aux petits pays insulaires d'avoir deux années de soutien de plus à 50%. Ensuite, l'option concernant le traitement des pays affranchis grâce à la nouvelle procédure de demande. Donc, parmi les questions clés qu'on pourrait discuter, premièrement, est-ce que les PMA et les pays insulaires en développement devraient recevoir un soutien supplémentaire? Deux, est-ce que les options que nous proposons, c'est la solution? Ou alors, est-ce qu'il y a autre chose, une autre solution qu'on pourrait envisager? Ou alors, est-ce qu'il y a des éléments à ajouter ou à enlever dans ce que nous avons proposé? Troisième question, est-ce que les pays affranchis qui ne peuvent pas financer une partie de la participation devraient être réintégrés? Est-ce que notre proposition concernant le traitement de ces pays affranchis est la bonne solution? Et encore une fois, il reste encore à élaborer tous les détails et vous avez peut-être et certainement des suggestions à faire qui seront les bienvenues. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut rester peut-être au niveau où on peut se demander est-ce que c'est la bonne solution qu'on propose, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer, est-ce que l'esquisse, est-ce que le cadre que nous proposons est un cadre qui vous semble acceptable?
The floor is open for...
Y a-t-il des propositions, des commentaires? Je vous rappelle qu'il s'agit de limiter la discussion aux questions qui ont été posées. Et je vous rappelle qu'il y aura une séance parallèle pendant la réunion de la commission. Et dans cette séance parallèle, eh bien, on aura l'occasion d'avoir une discussion détaillée. Et donc, je vous demanderai de vous concentrer sur les questions qui sont proposées ici, les questions clés, et de vous concentrer sur les propositions qui permettraient à ce fonds fiduciaire de progresser. Voilà. Je donne la parole maintenant aux membres de l'Amérique du Nord. Merci, Président, et merci à l'OMS de cette excellente présentation et de ce rapport très complet. Et je pense qu'il y a de très bonnes idées qui nous ont été données. Et ça va nous être utile dans nos réflexions. Nous avons réfléchi à la participation et nous avons parlé à un certain nombre de pays et je dois dire que nous sommes très conscients de certains problèmes qui se sont posés pour les pays qui se sont affranchis ou alors qui font partie des petits pays insulaires en développement, certains étant proches des États-Unis. Et certains sont sortis du programme. Bon, ils ont beaucoup de tourisme et par conséquent, il y a peut-être des chiffres, mais qui masquent peut-être le fait que le pays ne s'est pas tellement enrichi quand même. En tout cas, je pense qu'il est utile de réfléchir à différents moyens pour maintenir et pour renforcer la participation. Mais en même temps, et je pense que ça ressortira de la réunion qu'on aura vendredi prochain. En même temps, il est important également de réfléchir pour voir comment nous allons en assurer la pérennité. Ça viendra de la formation, du renforcement des capacités, puis l'idée du mentorat, par exemple, ça me paraît pas mal aussi. Parce que, outre le soutien financier qu'on apporte aux pays pour qu'ils participent aux réunions, eh bien, on aide ces pays à participer de manière effective, mais en même temps, on les aidera aussi à se préparer pour qu'ils arrivent au point où ils puissent ensuite le faire tout seuls. Et nous constatons qu'il y a des pays enfin, pour obtenir le soutien de la part de son pays, eh bien, il faut tout d'abord démontrer à son propre pays que ce qu'on fait est important. Et si on arrive à le faire, eh bien, ça vous permettra également d'être efficace et effectif au sein des réunions du Codex. Et donc, il s'agit pour les gens également de participer de manière effective aux réunions, et donc c'est un moyen d'obtenir aussi le soutien de la part de leur gouvernement. On a tous un problème dans la plupart des pays, si vous voulez, faire accepter l'importance des travaux du Codex. Donc, je pense que ça, c'est aussi un élément important sur lequel il faut se concentrer. Merci. Merci de votre collaboration. Le membre de l'Afrique a la parole.
Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de féliciter la représentante du Fonds fiduciaire pour l'excellent exposé. J'avoue qu'il est un peu difficile de faire un choix entre les deux options faites, parce que pour moi, ces deux options se complètent. Bien sûr que je suis heureux de constater que tout le monde est d'accord sur la pertinence du Fonds fiduciaire et le souci de l'envoyer, de continuer. Je suis d'avis qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas progressé, pour lesquels il est important de voir ce qui ne va pas, ce qu'on peut faire, mais je pense que c'est très important de continuer à appuyer un certain nombre de pays qui sont considérés déjà, comme on le dit entre guillemets, affranchis. Parce que moi, j'ai regardé la liste et j'ai constaté que certains pays dits affranchis sont des pays qui ont un revenu extrêmement faible. Donc cela veut dire que c'est des pays qui certainement ont pu faire valoir une volonté politique très forte à l'intérieur, qui les a permis de mobiliser pendant un certain temps un certain nombre de moyens. Mais comme vous l'avez indiqué, ces pays ne sont pas toujours stables à cause de certaines raisons qui font que, d'ailleurs on l'a vu avec le temps, il y a des années où il y a quelques ressources, d'autres pas. Donc si déjà nous pensons, nous essayons de laisser tomber ce pays, je pense qu'il y a un problème. Au contraire, moi je pense que c'est le genre de pays que je considère comme de bons élèves. Donc il y a lieu ici dans cette expérience de développer un système de champions, des pays qui vraiment montrent par leur dynamisme et leur vitalité, leur capacité à aller de l'avant et pouvoir montrer que même si on n'a pas beaucoup de ressources, si on fournit beaucoup d'efforts à l'intérieur, on peut avoir de bons résultats. Donc pour moi, il s'agit vraiment de voir certains éléments la première option, mais aussi la deuxième option, parce que je constate aussi que même pour ceux qui ont participé, heureusement, on est d'accord qu'il faut continuer parce que la participation physique aux réunions n'a pas été suivie immédiatement d'une participation de qualité, ce qui est compréhensible parce que c'est des pays qui n'avaient pas une expérience. Et pouvoir préparer des bons documents, participer, prend beaucoup plus de temps que de préparer un voyage et venir s'asseoir à une réunion. Donc, a priori, voilà, Monsieur le Président, un certain nombre de commentaires. Et je pense aussi qu'on a besoin de fournir l'effort de malgré qu'on veut économiser, mais il y a lieu de renforcer aussi le staff qui est chargé du fonds fiduciaire, parce que avec ce que nous sommes en train de construire, il y aura à mon avis beaucoup plus de charges de travail que je ne suis pas sûr qu'une ou deux personnes puissent continuer à le faire. Voilà, Monsieur le Président.
Thank you very much for that input.
Merci beaucoup de votre contribution. Le coordonnateur Nazwap.
Thank you, Chair.
Merci, Monsieur le Président, et je félicite l'OMS de sa présentation. peut-être, je suis peut-être un de ceux qui coûtent le plus cher, parce que quand on vient du Pacifique, ça coûte peut-être deux ou trois fois plus cher que, ou par rapport aux gens qui viennent d'ailleurs ou d'Afrique ou d'ailleurs. Alors pour ce qui est des propositions qui ont été faites, notamment l'option 2, et pour ce qui est de ces deux années supplémentaires qu'on propose à certains pays, eh bien, à la session de l'an dernier, nous étions d'accord pour que le fonds passe de l'objectif 1 à l'objectif 3, mais pour cette nouvelle proposition concernant les deux années supplémentaires, eh bien, pour ce qui est de cette option-là, je pense que ce serait la bienvenue et plus que la bienvenue dans notre région du monde. Merci.
Member CCLAC, please.
Le membre du CCLAC. Merci, Monsieur le Président. En fait, je voulais poser une question qui concerne la gestion du fonds. Ce qui m'a attiré l'attention, c'est que dans le tableau 7, où on trouve les dépenses, la gestion du fonds, c'est-à-dire les frais de gestion et d'administration, et la surveillance, ces frais, ça représente environ 18,5% des revenus. Et donc, moi, ça m'a frappé, parce que quand j'ai regardé un document de la FAO, eh bien, je constate que les frais de gestion, quand ils sont les plus élevés, ils ne dépassent pas 13% des revenus. Maintenant, pour ce qui est des projets gérés par la FAO, le maximum de ces frais de ces frais d'administration, c'est 13%. Alors pourquoi est-ce que les frais de gestion du fonds sont tellement élevés? Merci.
Thank you, member for CCLAC.
Merci aux membres du CCLAC. Je ne vois pas d'autres pancartes. Si, le coordinateur pour l'Europe. Merci, Monsieur le Président. En tant que CC Euro, je voudrais remercier la FAO et l'OMS de cette excellente présentation. CC Euro pense que les PMA et les petits pays insulaires en développement devraient bénéficier d'un soutien supplémentaire. Et pour nous, il est très important qu'il y ait le plus grand nombre de membres du Codex possible, et notamment des pays en développement, qui puissent participer activement aux activités du Codex, à toutes les étapes du processus. Cela étant dit, il ne faudrait pas oublier que ce ne sont pas toutes les normes, notamment en ce qui concerne les produits de base, qui sont importants au même degré pour tous les membres du Codex. Compte tenu de ce fait, eh bien, les membres du Codex pourraient très bien choisir et limiter leur participation uniquement au comité qui travaille sur ce qu'ils considèrent comme étant leur priorité nationale. Je pense que le mentorat ainsi que le jumelage entre les pays en vue de renforcer la participation, c'est quelque chose qui est hautement recommandable et qui devrait en fait être appliqué de façon plus générale. Et pour terminer, je voudrais encore dire que lors de la dernière session du CC Euro, 15 pays de la région Europe qui étaient soutenus par le Fonds fiduciaire pour leur participation. Donc 15 d'entre eux étaient soutenus et je voudrais pour cela remercier le Fonds fiduciaire du Codex qui a apporté ce soutien. Merci.
Thank you very much.
Merci beaucoup au coordinateur pour l'Europe. Le coordinateur pour l'Asie. Merci, Monsieur le Président. La position du CCASI pour cette proposition, surtout pour ce qui est de la question numéro 2, nous convient. Donc, il s'agit de se fonder sur des données scientifiques pour étayer donc le soutien des pays participants.
Thank you very much, coordinator.
Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à l'OMS, tout d'abord, pour clarifier la question du financement. Il faudrait résumer donc la marche à suivre par rapport à ces questions clés dans le cadre de l'objectif 1. L'OMS Alors tout d'abord, je vais aborder la question du financement. De deux choses l'une, ce qu'on a entendu du membre pour l'Afrique, c'est qu'il y a un besoin de renforcer le soutien de gestion, au niveau de la gestion du fonds du Codex, car on fait face à des problèmes de longue durée pour l'assurance des meilleurs services au regard du personnel que nous avons. Donc ce que j'entends, la question par rapport aux dépenses, eh bien c'est cela. 18%, non, c'est plutôt 15% d'après mes calculs, 1,5 million sur 1,1 milliard. Donc si j'ai bien compris, vous nous demandez pourquoi on a des coûts de gestion qui dépassent les 13%. Donc l'excédent de 13%, c'est une taxe que l'on prélève sur tous les fonds qui viennent à l'organisation, qui lui sont versés. Il s'agit de couvrir le coût de l'organisation au niveau de la gestion des fonds par le biais d'autres services, l'acquisition, les rapports, etc. Tous ces services qui ne sont pas visibles mais qui pourtant coûtent très cher. Et je me souviens à l'université, et c'était il y a très longtemps, et je payais ce type de taxe qui s'éleva à 25%. Et maintenant c'est même 35 à 40% qu'on paie. Donc il y a des discussions qui sont en cours pour savoir si ce pourcentage est suffisant pour en couvrir le coût de la gestion. Ça n'a rien à voir avec la gestion du programme en tant que tel. Donc je crois que c'est tout à fait raisonnable. Et là encore, on est pris en sandwich entre votre avis de réduction des coûts et les conseils du membre pour l'Afrique consistant à augmenter notre soutien. Et mon observation... pendant ma période de responsabilité de ce programme, c'est que nous avons des cas dans lesquels un soutien accru est nécessaire pour en garantir une participation efficace. Merci beaucoup à l'OMS. Donc, d'après les contributions des délégués pour ce qui est de l'objectif 1, je déduis que le comité est en faveur d'un soutien continu pour les PMA et les pays insulaires. Et le comité soutient également le besoin de multiplier les options qui comprennent l'information, le renforcement des capacités, le mentorat, en soutenant la participation. Et ce comité soutient le soutien aux pays affranchis. Mais pour ce qui est de la question des pays affranchis, des analyses plus creusées sont nécessaires pour déterminer qui mérite ces aides dans cette catégorie. Voilà ce que je déduis des discussions qui viennent de se tenir concernant cet objectif numéro 1. Mais je vois que le coordinateur pour l'Asie souhaite prendre la parole. La FAO, s'il vous plaît. Juste un petit apport à la discussion. Le groupe de consultation et surtout les discussions de la FAO et de l'OMS tiennent compte de la question de l'économie et de l'efficacité et le besoin d'éviter les doublons avec les travaux du CCF et les travaux de l'organisation. Donc sur la base de notre expérience des années passées, nous essayons d'organiser les choses différemment au niveau de l'organisation et de l'administration pour améliorer notre efficacité. Donc, on insiste sur l'efficacité au niveau des organisations de tutelle et de s'assurer donc que nous reconnaissons qu'il y a eu des problèmes par le passé et nous travaillons à l'amélioration de notre efficacité. Merci à la FAO. Le vice-président Knud.
Thank you.
Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je remercie l'OMS pour cette présentation très complète face à des problèmes pressants. Donc, nous avons discuté des priorités et de leur importance et ce que l'on fait pour ces pays concernés. Je me demandais si l'organisation avait une idée du financement total. Nous avons un petit nombre de pays qui contribuent au fonds fiduciaire et si un petit nombre de ces pays mettent un terme à leur contribution, eh bien les pays prioritaires verront leur situation compromise. Donc quels sont les pays qui devraient être soutenus, sur quelle base? C'est une question qui va devenir de plus en plus critique. Je sais que vous ne pouvez peut-être pas répondre à cette question, mais il est intéressant d'en débattre.
Member for CCLAC, please.
Membre du CCLAC?
No. Okay. Advisor Africa.
Conseiller pour l'Afrique.
Hey, thank you, Chair. We are just making a follow-up to.
Merci, Monsieur le Président. Juste pour continuer dans la lancée de la présentation du membre pour l'Afrique, nous avions mentionné la question du personnel du fonds fiduciaire, du bureau du fonds fiduciaire du Codex. Cette question doit faire l'objet de réflexions approfondies dans le. Résumé, on a l'impression que cette question n'a pas vraiment été prise en compte. Elle devrait l'être, car en raison des préoccupations liées aux effectifs, donc l'évaluation du financement a été finalisée avant même qu'on tienne compte de cette question des effectifs. Donc j'aimerais que cette question soit abordée en plus des autres points qui ont déjà été soumis. Merci au conseiller pour l'Afrique. Ce point sera pris en compte. Et maintenant le membre pour l'Amérique du Nord. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques commentaires par rapport à la formation, au renforcement des capacités et aux contributions au fonds fiduciaire. Certains pays ont beaucoup de difficultés à faire des transferts de fonds. Ça ne veut pas dire qu'ils ne contribuent pas, qu'ils n'aident pas à la participation des membres. Donc, lorsque l'on se penche sur les programmes de renforcement des capacités et autres éléments, n'oublions pas qu'il peut y avoir des pays qui agissent de façon isolée, mais qui contribuent à l'effort général. Donc n'oublions pas ces éléments de contribution, peut-être moins visibles, à l'heure où l'on planifie les actions à entreprendre de façon à éviter tout doublon.
Vice Chair David, please.
Vice-président David.
Thank you, Mr. Chairman.
Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier l'OMS pour cette très bonne présentation qui nous donne matière à réflexion. Au cours de mon entretien avec des collègues de divers pays, en particulier des pays d'Asie, j'ai cru comprendre que les pays ne savent pas vraiment comment sélectionner les comités auxquels ils doivent participer. Lorsque l'on parle du CCGP, ils ne savent probablement pas quel est son champ d'action. Même aujourd'hui, quand on parle du CCFIX, ils ne savent pas quelles sont les questions dont on discute au sein du CCFIX. Et ainsi de suite. Donc, si l'on recherche les pays qui souhaitent participer, qui souhaitent progresser, peut-être que comme point de départ, il faudrait les aider à bien comprendre ce que font les divers comités et quels sont les thèmes qui ont été abordés dans ces comités et comment on essaie donc de poursuivre l'objectif de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire des aliments. Cela pourrait permettre d'améliorer la participation, car certains pays choisissent des comités sans même savoir qu'est-ce qui va y être discuté. Donc le renforcement des capacités, à mon avis, devrait devenir beaucoup plus important à ce stade si l'on souhaite améliorer la participation efficace au Codex. Merci.
Thank you very much.
Merci beaucoup pour cette réaction. Qui permet d'affiner nos recommandations. Je vais maintenant demander à l'OMS s'il a des commentaires finaux par rapport à l'objectif 1, pour que l'on aborde les questions et entrer aux objectifs 2 et 3, l'OMS. Merci. Je voudrais juste répondre à certaines questions et des commentaires. Pour ce qui est de la question de l'établissement du budget, c'est une question importante. À ce stade, je crois comprendre qu'il y a des pays donc qui s'affranchissent, donc il y a une demande qui diminue, mais du point de vue des pays qui seront ramenés à cette position donc de bénéficiaire des aides, ça ne va pas nous ramener au même niveau qu'auparavant. Car deux participations pour 31 pays, ce n'est pas la même chose que six participations pour 30 pays. Néanmoins, il semblerait que ça nous permette de rester concentré sur l'objectif 1, et ça, je l'ai bien compris, des réactions de tous les comités régionaux. Oui, on peut avoir des changements stratégiques, mais il faut rester axé sur la question de la participation efficace. Donc, je crois qu'on va toujours travailler avec 55 à 60% de notre budget qui sera affecté à l'objectif 1, c'est-à-dire la plus grande partie du budget. Même si on consacre 25 à 30% à l'objectif 2 et pas plus de 10% pour l'objectif 3. Dans tous les cas, nous avons le budget suffisant pour assurer ce soutien supplémentaire tout en restant axé sur l'objectif 1. Pour ce qui est du secrétariat du Fonds fiduciaire, et des gains en matière d'efficacité et d'économie. Alors, lorsque nous opérerons ce changement, cette réorientation stratégique, nous rechercherons de nouvelles méthodes de travail. Par exemple, les cours de formation et de soutien qui seront effectués par l'OMS et la FAO au cours de l'année, si on augmente le nombre de cours, l'administration ne sera plus faite par le secrétariat du Fonds fiduciaire du Codex. Il y a beaucoup de différentes manières de déléguer ces tâches, peut-être par le biais d'organes permanents ou d'institutions des pays qui vont accueillir ces cours de formation. Il y a diverses options possibles. Et pour répondre aux délégués de l'Amérique latine et des Caraïbes, nous essayons également de voir comment réduire donc nos dépenses au niveau de la gestion de l'administration. Je ne crois pas qu'il nous faudrait un secrétariat qui croisse en permanence. Donc il y a divers moyens d'aborder la question pour savoir comment maintenir des coûts faibles, comment améliorer notre efficacité, comment mieux utiliser notre budget. Le délégué de l'Amérique du Nord a fait un très bon commentaire par rapport à la participation de tous dans le cadre de la constellation des activités de renforcement des capacités du Codex. Donc il y a des contributions en nature de certains pays. Et le Fonds fiduciaire du Codex, eh bien, doit trouver sa place au sein de cette constellation immense. Il ne s'agit pas de trouver la place de tout le monde dans le cadre de nos propres activités. C'est à nous de nous inscrire, de trouver notre place dans cette constellation, puisque nous avançons tous vers un même objectif. Et je crois que nous aurons de très bonnes discussions la semaine prochaine dans des événements en marge de la Commission. Pour ce qui est de la question de l'établissement des priorités, c'est une question tout aussi intéressante. Alors, il y a des lignes directrices pour les demandes de participation au comité du Codex. Mais vous avez raison, je crois qu'il faut aider les pays à mieux comprendre comment établir les priorités de participation aux divers comités, quels sont les bénéfices que pourraient tirer les comités. Je crois qu'on pourrait travailler avec les pays qui accueillent ces comités. Il faut assurer une meilleure communication avec les pays. Cela fait partie déjà des efforts de renforcement des capacités menés à bien par la FAO et l'OMS. Mais une fois qu'on a compris cette idée, comment l'approfondir, comment améliorer nos actions et peut-être compléter les efforts qui ont déjà été faits dans les pays d'accueil des comités. Merci. Alors, les questions pour l'objectif 2, est-ce qu'on peut les afficher?
I think let's also have objective 3.
L'objectif 3 également. Alors ça, il s'agit de la question de l'objectif 3. La formation, et je crois qu'on a déjà abordé cette question lorsque l'on parlait de l'objectif 1, mais vous avez la parole néanmoins. Et essayons donc de procéder rapidement pour gagner du temps de façon à achever ce point avant la pause. Donc, les questions au titre de l'objectif 2 pour la formation. Ces domaines sont-ils des domaines appropriés pour la formation au Codex soutenue par le Fonds fiduciaire? Donc peut-être qu'il faut se pencher sur la question. Ensuite, la question de l'apport de données scientifiques. Membre pour l'Afrique.
Merci, Monsieur le Président. Il ne serait pas long, mais je pense qu'à la lumière de tout ce qui a été discuté, le besoin de renforcer l'objectif 3 est pour moi tout à fait évident. Je me rappelle à la réunion du comité de coordination pour l'Afrique l'année dernière, lorsque l'OMS nous a fait la présentation de l'impact des mycotoxines sur la santé publique, et nous avons été tous d'accord quand on a appelé cela une mort silencieuse. Parce que, en réalité, on s'était rendu compte que la plupart des denrées alimentaires localement utilisées dans la consommation populaires étaient sujets à ce genre de contamination eu égard à beaucoup de conditions environnementales, de stockage, de récolte, etc. Et on s'est même demandé quelle était la raison même de mettre l'accent sur des produits d'exportation, parce qu'à l'époque, il y avait aussi une étude financée par des partenaires concernant le café. Ce n'est pas dire que ce n'est pas important, mais lorsqu'il s'agit de protéger la santé des populations, on ne peut pas imaginer mieux que passer en revue et protéger ce que les populations elles-mêmes consomment. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas avancé dans ce genre de questions, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de données scientifiques. Donc je pense que la démarche actuelle qui consiste à appuyer certains pays, et je salue de passage les deux organisations sœurs pour avoir choisi certains pays, pour aider à collecter des données concernant le sorgho, mais j'insiste sur le fait que la plupart des céréales utilisées en Afrique et des produits de consommation, on a besoin de fournir des forces. Je ne dis pas que ça c'est seulement le fonds fiduciaire de faire le travail, mais je mets l'accent sur la nécessité d'utiliser tous les moyens, ressources intérieures, ressources des partenaires bilatéraux et le fonds fiduciaire pour collecter un certain nombre de données qui nous permettraient de voir quelles sont les possibilités d'arrêter des normes concernant ces produits. Ça va de l'intérêt de la santé publique de ces pays. Merci.
Thank you.
Merci. Membre pour l'Asie, s'il vous plaît.
Thank you, Mr. Chair.
Merci, Monsieur le Président. J'ai une question à poser par rapport à la question. Nous reconnaissons l'importance de la prise en compte des données concernant les zones les plus larges possibles dans le monde avant d'établir toute recommandation du codex, surtout lorsqu'il s'agit de sécurité sanitaire des aliments. Mais je me souviens également qu'il y a des activités similaires organisées par l'OMS et la FAO. Et nous pensons également que le premier objectif de l'établissement du fonds fiduciaire consiste à faciliter la participation des pays aux réunions du Codex. Donc, ma question est la suivante. Quelle quantité de fonds de ce fonds fiduciaire sera affectée à ces activités? J'hésite à le dire, mais le Japon, ou au moins le ministre de l'Agriculture, a dû procéder à cette recourir à cette option alors qu'il n'y avait pas de données disponibles. Maintenant, nous pouvons fournir des données par rapport aux contaminants dans divers types d'aliments. Donc je comprends l'importance de cette activité. Mais nous ne voulons pas tout d'abord de doublons, de travail répété deux fois de façon inutile au niveau de l'OMS, de la FAO, du Codex, et nous ne voulons pas que les possibilités de participation des pays en voie de développement et qui sont dans le besoin se voient compromises. Donc voilà pourquoi j'aimerais que soient clarifiés ces points. Merci. Merci aux membres pour l'Asie, l'OMS. Peut-être que vous souhaiteriez répondre. Avec plaisir. Pour ce qui est des fonds disponibles au service de données sur les microtoxines pour le sorgho, cela a fait l'objet d'une contribution séparée de la Commission européenne. Nous avons une contribution de la Commission européenne que nous utilisons pour la participation. Et pour la première fois, ils ont fait une contribution séparée dans un accord différent qui accorde 625 000 euros étalés sur 3 ans pour les études et les collectes de données dans les pays que j'ai mentionnés. Donc c'est de l'argent supplémentaire et ça n'a aucun impact sur les fonds disponibles pour la participation puisque ce sont de nouveaux fonds. Donc le total que nous dépenserons se monte à 925 000 dollars américains étalés sur 3 ans. Et voilà l'ensemble de ce qui sera dépensé pour l'objectif 3. Et les autres propositions de l'objectif 3, avec par exemple le séminaire pour améliorer la compréhension de la science et de l'intégration de la science dans les efforts du Codex et la contribution des membres, pour le moment c'est un point qui ne coûte rien, comme je l'ai dit. Et on a une autre proposition qui est toujours en cours d'étude, qui consisterait à inviter des experts qualifiés au comité d'experts dans le cadre d'un accord de mentorat. Et cela ne coûterait pas plus de 20 000 dollars par an, en surcroît.
WHO would like to add something then.
L'OMS souhaite ajouter quelque chose et ensuite la FAO.
Thank you, Chair.
Merci, Monsieur le Président. Juste pour dissiper les préoccupations du membre de l'Asie, en plus des chiffres qu'on vient de vous donner, alors, tout ne vient pas du Fonds central. Nous sommes entretenus avec nos collègues de la FAO et du secrétariat du CONEX. Les deux principes que nous suivons sont ceux sur lesquels vous insistez. Alors, ne pas affaiblir l'objectif 1. Nous savons que l'objectif 1 est important et c'est notre priorité. Mais il faut arriver à un équilibre. La simple participation n'est pas suffisante. Il nous faut aussi une participation efficace, d'où l'objectif 2, dont découle l'objectif 3. Donc, on ne remet pas en question l'objectif 1, il n'est pas question de l'affaiblir, d'affaiblir nos contributions. Ensuite, deuxième point, et la FAO sera d'accord avec nous, on a beaucoup parlé de l'intégration des activités de renforcement des capacités des organisations de tutelle et les autres activités de renforcement. Donc, il n'y a pas de danger de duplication du travail. Néanmoins, nous prenons bonne note de vos conseils, nous suivons ces conseils, et ce sont ces idées qui guident notre travail pour l'avenir. Merci. La FAO ? Je me fais l'écho de mon préopinant de l'OMS. Je souhaite simplement répondre au délégué pour l'Asie concernant la question des doublons. Oui, je vous assure que la FAO a un contrôle des microtoxines parmi ses plus hautes priorités, et pas seulement du point de vue du règlement ou de programme de suivi, mais de façon plus large avec nos unités sœurs qui traitent des infrastructures qui suivent après les récoltes, le long de la chaîne de commercialisation. Donc c'est une question complexe. Il ne s'agit pas simplement de mesurer tout cela. La FAO dispose d'un certain nombre de programmes qui sont déjà en place pour gérer la question. L'an dernier, nous avons collaboré étroitement avec le WFP pour ce qui est des microtoxines. Et nous avons fait des levées de fonds communes pour améliorer notre présence, surtout en Afrique, de façon à mieux gérer la situation. Et avec l'OMS, ainsi que l'AIEA, nous avons posé tant de questions par rapport à l'échantillonnage et au suivi, et nous cherchons des réponses à ces questions pour améliorer les orientations que nous avons déjà émises dans ce sens. Donc, dans le cadre des programmes de renforcement des capacités de la FAO, avec l'OMS et de nouveaux partenaires tels que le PAM, nous faisons preuve d'un engagement actif.
Thank you very much, FAO.
Merci beaucoup à la FAO. Donc, pour en conclure, c'est les questions pour l'objectif 3. Le comité est en faveur des propositions qui lui ont été présentées. Néanmoins, nous notons un besoin de mieux équilibrer les objectifs 1, 2 et 3, ainsi que le besoin d'harmoniser les efforts dans ce domaine, surtout au niveau des organisations de tutelle et des initiatives du Fonds fiduciaire du Codex. Il faut également prendre en compte d'autres efforts consentis par les États membres dans ce domaine. Merci beaucoup à l'OMS, merci aux délégués. Nous allons marquer une pause café et on se retrouve à 11h15. Attention, il nous faut finir à 12h30. Merci.